Oui, merci beaucoup. C'est un petit peu difficile de passer après des interventions qui portent sur des enjeux aussi importants. J'essaierai d'être brève pour qu'il y ait du temps pour la discussion et pour parler. Mais enfin, c'est vrai que ça permet de montrer aussi la diversité du GSRL, même si j'essaie de parfois d'essayer de mettre des questionnements du GSRL ou sur la sécularisation. Là, je me suis lancée dans le modèle convictionnel qui était apparu dans la préparation du congrès. J'ai peut-être un peu pris un risque, mais enfin, nous verrons. Donc, d'abord, quelques repères. L'Empire mongol de Gengis Khan et de ses successeurs s'est constitué au cours du XIIIe siècle. Gengis Khan meurt en 1227. Les conquêtes se poursuivent jusqu'aux années 1260. La Chine, l'Asie centrale, la Russie, avec des populations turcophones islamisées, et l'Iran. Donc, quatre grandes parties. Sur le plan religieux, à ce moment-là, à la place des pratiques chamaniques, les souverains mongols vont adopter des religions universalistes. Alors en Russie, du fait que les sujets turcophones islamisés sont dominants, c'est l'islam, de même qu'en Asie centrale, de même qu'en Iran, mais du côté de la Chine, où Kubilai poursuit et termine la conquête du pays, c'est avec le bouddhisme tantrique appris et enseigné par des maîtres tibétains en Chine que les Mongols se familiarisent et s'installe d'ailleurs dans le cadre de la Chine. C'est Kubilai qui déplace la capitale, le centre de l'Empire, à Pékin. Mais à côté de cette adoption de ces grandes religions universelles, les Mongols continuent pourtant à pratiquer des cultes lignagés, comme on voit se poursuivre même à l'intérieur, bien sûr, surtout du lignage impérial. La dislocation de cet empire, des différentes composantes de l'empire, commence un siècle plus tard, vers le milieu du XIVe siècle. Et en ce qui concerne les Mongols Yuan, enfin de la dynastie Yuan, qui est donc fondée par Kubilai, ces Mongols sont chassés de Chine, repartent se réinstaller dans les steppes, où une partie d'entre eux était restée. Et avec ce retour dans les steppes, en fait, les pratiques chamaniques qui avaient précédé reprennent le pas sur le bouddhisme. On rentre dans une période d'affaiblissement et de division de l'État mongol. Et c'est dans ce contexte que les élites mongoles, dans une perspective de restauration de l'État et de sa grandeur passée, choisissent de rétablir le bouddhisme comme partenaire privilégié de l'État, dans le cadre d'une alliance qu'ils appellent celle des deux principes, le religieux et le politique, pour le bien du pays et du peuple. Et le bouddhisme est alors imposé au sujet de ces princes mongols qui, donc, les uns après les autres, adoptent le bouddhisme, et s'est imposé par la contrainte si nécessaire. Cette unité politique et religieuse est un phénomène nouveau pour la société mongole et elle place le bouddhisme dans une situation de monopole sur le religieux. C'est aussi un nouveau mode convictionnel qui se différencie du chamanisme et une autre façon de croire qui se constitue. Le cadre institutionnel donc de l'État, cette alliance entre les princes et l'Église, facilite la répression des pratiques chamaniques qui ne pourront résister que dans des régions périphériques, aux marges des groupes mongols majoritaires. On va interdire les sacrifices d'animaux en grand nombre qui avaient lieu dans le cadre des cultes, voire parfois des personnes. Il y avait encore des sacrifices de personnes sur la tombe de défunts jugés importants. On détruit les objets de culte, on détruit les supports d'esprit chamanique. Le bouddhisme s'installe aussi à travers une activité missionnaire efficace. Les moines parcourent le pays pour répandre la doctrine, pour démontrer, en rivalisant de magie avec les chamans, en utilisant le recours du tantrisme, la supériorité du bouddhisme sur les chamans. L'intégration de la religion se fait aussi par l'obligation faite aux familles de donner un fils au monastère, ce qui renforce l'intégration du nouveau système religieux dans la société. En chassant les chamans, l'institution bouddhique doit aussi maintenant remplacer. Donc, elle va développer de nouveaux rites, de nouvelles prières qui sont destinées aux besoins des laïcs qui se passent à l'extérieur des monastères et qui vont se substituer aux anciens rituels chamaniques, lignagés, familiaux, qui assuraient les anciens rituels lignagés et chamaniques. Ils vont donc. Les nouveaux rituels des moines vont permettre à la fois d'assurer et de gérer la prospérité, les demandes de prospérité des familles, des troupeaux, mais aussi de gérer les différents dysfonctionnements causés par les esprits malveillants qui restent très présents dans l'imaginaire des Mongols, le bouddhisme ou pas. Rares sont finalement les domaines qui échappent au bouddhisme, et il en investit même de nouveaux, comme le domaine de la mort et des funérailles. Il y a aussi l'astrologie qui encadre et vraiment contrôle beaucoup le quotidien des gens. Avec l'institution monastique, le bouddhisme aussi délie une partie non négligeable de la population masculine de ses obligations familiales et sociales. Il instaure aussi, sur le plan individuel, une relation directe avec le croyant. Il introduit aussi cette notion de salut personnel, finalement, à travers l'idée de réincarnation successive dont la nature résulte des actions personnelles que chacun, bonne ou mauvaise, a eues dans les existences précédentes. Et ce souci d'une bonne réincarnation dans le futur a pris une place très importante, une place centrale dans les convictions des bouddhistes mongols et motivé beaucoup de leurs rites. Pour une minorité, le bouddhisme quand même représente aussi, par la richesse de ce système religieux très élaboré, qui a une grande tradition écrite, prestigieuse, quelque chose qui n'était pas très présent en Mongolie, ça représente aussi un accès à une philosophie et à des savoirs sophistiqués qui peuvent représenter une source d'émancipation. Et d'ailleurs, c'est ce dont témoigne l'attitude de certains moines érudits qui sont assez ouverts à d'autres systèmes d'interprétation du monde. Mais de manière générale, le bouddhisme demande une adhésion exclusive à sa doctrine, à son clergé, bien que, comme partout, les individus fassent toujours preuve d'une certaine capacité de distanciation en la matière. L'alliance entre le religieux et le politique, donc ce modèle, va atteindre un point culminant en 1911, lorsque un État mongol indépendant peut se rétablir à la chute de l'Empire mandchou. Et lorsqu'on voit une grande figure religieuse mongole, qui, malgré ses origines tibétaines, va être placée à la tête du nouvel État par les élites laïques et religieuses associées, et non pas, comme ça aurait dû être le cas, et c'était le cas jusqu'alors, par un descendant appartenant à la lignée gingiscanite, et plus précisément des descendants du Kubilai. Paradoxalement, et malgré les aspects archaïques de ce régime, il y aura quand même... Et du fait de l'ouverture nécessaire vers la Russie pour conserver l'indépendance, cette période un peu de théocratie va déclencher un processus de modernisation et amorcer aussi une sécularisation du savoir par le biais de quelques personnages, en particulier un intellectuel mongol Bouriat qui a pu recevoir une éducation européenne en Russie. Et qui a bénéficié d'une éducation à Saint-Pétersbourg, à l'université de très haut niveau, et qui va vraiment s'efforcer pendant ces années 1910-1920, et encore dans les années qui suivent, les premières années du régime révolutionnaire, va s'efforcer de diffuser des connaissances scientifiques, des connaissances sur les différents pays du monde, les différents systèmes parlementaires qui existent, qui n'était absolument inconnu dans cette Mongolie du Nord. Et ce savoir remet aussi en question les visions du monde qu'ont les lamas, qui sont très critiques. Le clergé très conservateur, pour la plupart, est plutôt critique. Il plaint et se plaint, et va même jusqu'à acheter une partie de cette production très, très nouvelle de journaux pour pouvoir les brûler. En général, de toute façon, les moines, la liturgie en mongole était en tibétain, donc souvent les moines n'étaient pas éduqués dans la langue mongole. Mais ils savaient très bien que cela allait contre leur vision, et ils avaient cette attitude assez donc exclusiviste, sur laquelle j'insiste, parce qu'après je passerai un peu au communiste. Donc 10 ans plus tard, en fait, 1911, la fin des mandchous, 10 ans plus tard, en 1901, à la faveur d'une lutte patriotique pour chasser des troupes chinoises entrées en Mongolie, qui rend à nouveau l'appel à la Russie, qui est devenue soviétique entre-temps, c'est un nouveau régime qui est établi, et cette fois-ci sur le modèle bolchevique du parti unique. Le Comintern est très présent dans l'instauration du régime et ses premiers développements, et il finit par imposer la voie communiste, qui n'est pas celle, en fait, au départ, plus réformatrice, économiquement libérale, internationalement neutre, qu'aurait souhaité une bonne partie de l'élite politique mongole. Et donc on se retrouve dans cette situation où on a deux systèmes de pensée, finalement exclusifs l'un et l'autre, qui se trouvent face à face. Et ce conflit d'universalité va produire un affrontement dont on connaît le résultat. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que ce modèle convictionnel qui s'est établi avec... établi dans la société mongole à travers l'adoption du bouddhisme par les élites politiques et par cette adhésion à une doctrine exclusive, par l'importance prise par le clergé dans les affaires publiques, par cet horizon futur d'une meilleure réincarnation pour lesquelles, enfin, que les individus doivent viser, Est-ce qu'elle a pu jouer un rôle après sur la réception par les Mongols de la nouvelle idéologie qui finalement, par plusieurs aspects, présente des points communs? Je sais que bon, la question de la religion séculière, religion politique est discutable. Hannah Arendt a dit que bon, c'est pas parce qu'on plante un clou avec le talon de la chaussure que le talon, la chaussure est devenue un marteau. Mais malgré tout, dans les fonctions que le communisme et le bouddhisme occupaient, on voit quand même des sortes de transpositions. Le communisme a pu actionner, je pense, des dispositions convictionnelles qui étaient déjà présentes, qui s'étaient développées et qui inclinaient à accepter cette vérité supérieure visant un but futur. Et en fait, la différence n'était pas si grande puisque, aux yeux de beaucoup, y compris de certains révolutionnaires très importants, des plus radicaux, l'adhésion au nouveau régime ne mettaient pas forcément en cause leur foi bouddhique. Et là, on voit qu'il y avait une sorte de superposition entre Bouddha et Lénine dans les imaginaires, parce que finalement, l'enseignement de l'un était un peu mis en parallèle avec les objectifs que présentait le communisme. C'était donc le cas de celui qui a été Premier ministre dans les années 30 et dont Staline a fini par se lasser. Donc, ce choix n'a pas été accepté. Donc, c'était un peu avant les purges. Et Ganden, pour ceux qui le connaissent. Mais c'est aussi le cas, avec une approche plus rationalisante, de quelques intellectuels, des laïcs, mais aussi des religieux. Il y a parmi eux, par exemple, le Dharva Pandita, le Pandit, donc c'est un érudit bouddhique, qui va écrire un petit livret pour essayer d'expliquer, de justifier qu'il y a une compatibilité entre les deux pensées. On ne sait pas si finalement il s'adresse aux moines en leur disant d'être plus ouverts ou s'il s'adresse aux jeunesses révolutionnaires qui sont tout aussi radicales que le clergé conservateur. Mais en tout cas, il y a cette idée que les deux sont compatibles. Donc on s'accroche finalement à la dimension morale, éthique annoncé, qui est présenté par les deux doctrines et qui est présenté comme non contradictoire pour dire que les deux sont tout à fait compatibles dans la mesure où, en effet, dans la vision moderne et réformiste de certains Mongols, l'idée est que quand même les religieux se tiennent à leur place. Il y a là une sorte de mise en avant aussi de la proximité des valeurs respectives de ces deux systèmes qui va permettre aussi, je pense, à la fois dans le cadre du nouveau régime communiste, mais aussi a posteriori, après 90, quand on a cette revitalisation religieuse, finalement, pour les individus, de surmonter la contradiction apparente entre une foi bouddhique qu'ils ont finalement souvent conservée, hein, qu'on soit peut-être parfois au Kyrgyzstan ou en Mongolie, finalement, on s'aperçoit qu'à posteriori ou pendant, certains conservaient une foi personnelle au fond d'eux. Et en même temps, il y avait une allégeance déclarée quand même au régime communiste. Donc, les deux étaient là et cette contradiction peut se surmonter, je pense, en mettant en avant cette proximité des valeurs des deux. Et ça, malgré une communication du régime qui, au contraire, insiste sur l'aspect irréconciliable, l'aspect conflictuel des deux systèmes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux Mongols. Je lisais dans un article de Volrap Sar et d'autres sociologues allemands sur la RDA, qui est paru dans Social Compass, qu'ils avaient donc dans leurs entretiens, ils avaient parlé à un père de famille qui lui-même avait dû se désaffilier pour pouvoir rentrer au parti et qui soulignait ben, on ne peut pas être dans les deux, comme si c'était une sorte de constatation, mais quelque part un peu regrettable, mais qu'au fond, en dehors de ce vers quoi les uns et les autres se tournent, disait ce père de famille, dans les buts, ils sont identiques. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder la Bible, le catéchisme, tout ça est un peu pareil. Et en plus, en Allemagne, il y avait les fameux 10 commandements de la morale socialiste qui vraiment avaient l'air de parallèle. Donc, c'était très, très, très clair. Donc, voilà, c'est un peu cet aspect-là que je voulais souligner pour dire que d'un côté, les deux systèmes étant eux-mêmes très exclusifs, finalement, les acteurs, les individus, eux, ont un rapport différent quand ce ne sont pas les représentants ou les porte-parole de ces doctrines. Et au lieu de mettre en valeur les différences conflictuelles et dichotomiques, de faire un choix, ils essayent de trouver une attitude qui leur permet de réunir ces éléments différents qu'ils ont finalement acquis et qu'ils conservent en eux de leur univers convictionnel qui est finalement assez, qui n'est pas monolithique comme la doctrine elle-même. On prend un peu de ces relations et en fait on essaye de trouver une position confortable à la distance des deux. Et finalement, quand on regarde le bouddhisme qui s'est installé, on voyait que donc au XVIe siècle, à partir de là, il y a aussi chez les bouddhistes, les pratiquants ordinaires, les gens ordinaires qui se disent bouddhistes et qui certainement avaient été sincèrement bouddhistes, il y avait aussi une possibilité tout à fait, si le cas était nécessaire, d'aller s'adresser au chaman, voilà, pour pouvoir régler des problèmes. Ça ne les semblait pas quelque chose d'insurmontable. Voilà, c'était simplement ce petit point que je voulais mettre en valeur. Mais, voilà, merci.